fois-ci pour te tendre une oreille attentive et recevoir de toi ta parole. Nous savons combien, Seigneur, cette parole est importante, combien elle est vitale pour chacun de nous. En effet, dans cette parole, nous trouvons tous les nutriments indispensables dont notre âme a besoin. Nous trouvons en effet, Seigneur, dans cette parole, tout ce dont nous avons besoin pour grandir, Seigneur, dans ta connaissance, grandir dans notre relation avec toi, Seigneur, briller de ta lumière et rayonner de ta gloire. Alors, aide-nous, Seigneur, à être dans des bonnes dispositions de cœur pour recevoir ta parole avec foi, avec confiance. Merci, Seigneur, de nous parler maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons donc revenir sur notre thème dans lequel nous sommes depuis quelques dimanches, à savoir marcher dans l'amour du Christ, plutôt dans l'amour, de même que Christ a marché dans l'amour. Alléluia. Donc marcher dans l'amour à l'instar, à la manière, à l'image de Jésus-Christ. Nous allons relire notre premier passage, à savoir 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 21, et puis ensuite nous poursuivrons notre lecture et nous l'achèverons dans Éphésiens chapitre 5, les deux premiers versets. Nous lisons donc 1 Jean 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, nous dit la parole, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et enfin, Éphésiens 5, les deux premiers versets. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, depuis plusieurs semaines, nous sommes donc dans ce thème relatif à l'amour. Nous sommes en train d'examiner cet appel que le Seigneur adresse à tous ses enfants, cet appel qu'il adresse à tous les disciples du Christ, à tous ceux qu'il a engendrés à la nouvelle vie en Christ, à tous ceux qui sont devenus son ouvrage de par leur position en Jésus-Christ, ceux qu'il a destinés à marcher dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, eh bien, ceux-là ont un appel par rapport à ceux-là, à tous ceux qui lui appartiennent, eh bien, le Seigneur leur adresse un appel. Quel est en effet cet appel? Eh bien, c'est celui de marcher dans l'amour, l'amour grand A, à l'exemple, à l'image, à l'instar de Jésus-Christ. Alléluia. Et gloire au Seigneur. L'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. L'amour fraternel. Donc d'un côté, il y a Dieu que nous sommes appelés à aimer. Et de l'autre côté, eh bien, cet amour que nous avons pour Dieu nous amène à aimer le prochain. Et comme l'apôtre Jean l'a si bien exprimé, il est impossible de prétendre aimer Dieu et en même temps ne pas aimer l'autre. Car comment veux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu as de la haine envers ton frère que tu vois? Et donc dans tout cela pour dire que dans l'amour, le vrai amour, il y a une dimension pratique. Alléluia. Alléluia. Donc il n'y a pas d'amour platonique, c'est-à-dire qui serait simplement d'ordre de l'idéal, pas du tout. Quand Dieu parle d'amour, quand la Bible dit que Dieu est amour, eh bien, en effet, il est amour. Et nous pouvons contempler la manifestation de son amour tout autour de nous. Nous pouvons contempler la manifestation de son amour envers chacun de nous. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu est amour. Si nous pouvons nous rassembler autour de lui, le louer, interagir avec lui depuis le Saint des Saints, c'est tout simplement parce que Dieu est amour. Alléluia. Mes amis, nous devons savoir que nous avons été créés pour une relation d'amour. D'abord envers Dieu, avec Dieu, et puis ensuite envers le prochain. Alléluia. Donc Dieu nous a créés pour que nous puissions, si vous voulez, vivre dans l'amour. L'amour vis-à-vis de lui, l'amour vis-à-vis du prochain. Et l'amour reste le plus grand thème, mes amis, de tous les âges. Il reste le plus grand besoin dans lequel se trouve chacun de nous. Nous l'avons déjà vu. Créé pour aimer Dieu, et puis ensuite pour aimer son prochain. Et la relation que le Seigneur entretient avec nous, la relation que le Seigneur poursuit, cherche à avoir avec nous, est une relation motivée par l'amour, une relation qui repose sur l'amour, une relation, mes amis, qui nous vient tout droit d'un cœur qui aime. Il n'y a rien, mes amis, que nous puissions faire pour mériter cet amour de Dieu. Il a choisi de nous aimer alors que nous n'étions pas ses amis. Il a choisi de nous aimer alors que nous étions non aimables. Alléluia. C'est donc un amour inconditionnel, un amour profond. Et c'est dans cet amour que nous sommes appelés à marcher. Marcher dans l'amour. Quel amour? Eh bien, l'amour que le Christ nous a manifesté. Marcher dans l'amour comme lui a marché dans l'amour, lui le Christ. Marcher dans l'amour comme lui, Jésus, a vécu dans l'amour. Cet amour dont il nous a aimés, au point de se laisser livrer à la croix, de mourir dans d'atroces souffrances pour chacun de nous. Alléluia. C'est au nom de l'amour que le Christ est resté pendu sur ce bois infâme de la croix. Encore une fois, ce n'était pas la force de clou qu'il avait maintenu sur cette croix, mais plutôt l'amour qu'il avait et l'amour qu'il a encore pour l'humanité. L'amour qu'il a pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Eh bien, cet amour dans lequel nous sommes appelés à marcher, cet amour-là a pour modèle suprême et pour référence absolue le Seigneur lui-même. Alléluia. Et pour nous permettre de mieux comprendre l'importance de se référer à Christ, l'importance d'avoir comme repère, comme référence, comme modèle Jésus-Christ, eh bien, comparer l'amour, le commandement relatif à l'amour tel qu'il est énoncé dans l'Ancien Testament, Nous l'avons comparé au commandement nouveau que le Seigneur a donné à ses disciples et qu'il donne à chacun de nous. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous l'avons lu, dans le livre de Lévitique, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ce texte est cité à plus d'une fois dans le Nouveau Testament. Voilà donc l'enseignement de l'Ancien Testament. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qu'en est-il de l'enseignement du Seigneur? Nous l'avons vu, mes amis, l'enseignement du Seigneur concernant cet amour altruiste, cet amour fraternel, cet amour dans lequel nous sommes appelés à marcher, eh bien, nous avons lu deux passages qui montrent clairement que Jésus a apporté une révolution dans le domaine de l'amour. Premier passage, Jean 13, verset 34. Nous l'avons lu la fois dernière, je voudrais que nous le relisions. Je vous donne un commandement nouveau. Ah. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Non pas comme vous vous aimez, mais plutôt comme moi je vous ai aimé. Deuxième référence, Jean 15. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Nous nous sommes posés la fois dernière la question de savoir en quoi ce commandement est nouveau, puisque dans l'Ancien Testament, il est déjà question d'aimer son prochain. Eh bien, la révolution que le Seigneur a apportée, c'est la référence à lui. C'est lui qui est et demeure le modèle par excellence dans le domaine de l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. Il est donc question d'aimer, non pas comme nous nous aimons, mais plutôt d'aimer comme Jésus nous aime. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est donc un amour qui a pour origine Jésus-Christ, qui a pour modèle Jésus-Christ, qui a pour référence Jésus-Christ, un amour qui se manifeste par conséquent au travers d'une vie consacrée entièrement et totalement à Jésus-Christ. En d'autres mots, il est donc impossible de marcher dans cet amour, et nous verrons la caractéristique de cet amour. Il est donc impossible pour l'homme naturel de marcher dans cet amour, de vivre dans cet amour, non seulement l'amour envers Dieu, mais aussi envers le prochain. Et c'est là que nous allons voir que les gestes que les gens posent, qui peuvent nous paraître comme étant des gestes d'amour, ne sont en réalité que la manifestation d'un certain orgueil, d'une démarche qui consiste à vouloir attirer l'attention de gens sur nous. Car pour Dieu, il n'y a pas que le geste qui compte. Pour Dieu, il y a l'état du cœur derrière le geste posé. Dans quel état posons-nous ce geste? Est-ce que nous le faisons pour être vus? Est-ce que c'est seulement la main qui se tend et qui s'ouvre pour donner, alors que derrière cette main, le cœur n'y est pas? Vous voyez, c'est important de le savoir. Voilà donc la différence, comme nous l'avons vu la fois dernière, entre le commandement de l'Ancien Testament sur l'amour fraternel, sur l'amour altruiste, et le nouveau commandement relatif au même amour, cette fois-ci avec Jésus. C'est donc une véritable révolution. Si nous pouvions nous aimer véritablement comme le Seigneur nous aime, croyez-moi, notre monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La ville de Kinshasa ne serait pas ce qu'elle est. Le Congo ne serait pas ce qu'il est. L'Afrique ne serait pas ce qu'elle est. C'est parce que dans la plupart des cas, eh bien, nous ne vivons pas pleinement cet amour grand A. Nous n'aimons pas véritablement. Oui, nous posons des gestes, tant bien que mal. Oui, nous faisons ceci, nous faisons cela, nous venons en aide aux uns aux autres. C'est bien tout ce geste fraternel. Mais il n'y a que Dieu qui sait exactement la motivation derrière ces gestes. L'amour. L'amour véritable qui a pour origine Dieu lui-même. Voilà le genre d'amour dans lequel nous sommes appelés à marcher. Gloire au Seigneur. Mes amis, nous devons savoir que la plus grande force qui existe dans l'univers, dans tout le cosmos, Eh bien, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tout ce qu'il a créé, il a fait par amour. Alléluia. Sa création n'a rien apporté à sa personne. La création, quelle qu'elle soit, n'a pas apporté une certaine plus-value à la personne de Dieu. Il est avant la création, il est pendant la création, il est après la création. C'est un Dieu d'amour. Oh combien il aimerait que nous apprenions à le connaître pour l'aimer du même amour dont lui nous aime. Un amour infini, un amour éternel, des flots infinis d'amour, une force infinie, une énergie infinie. Voilà, mes amis, l'amour de Dieu. Et cet amour reste et demeure le seul antidote à la haine qu'il y a dans ce monde. Cet amour reste le seul remède, le seul antidote à la méchanceté, à l'hypocrisie, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, aux hostilités qu'il y a entre les peuples. Les peuples se dressent les uns contre les autres parce qu'entre eux, il n'y a pas de véritable amour. Si j'aime l'autre, je ne vois pas comment je prendrais un couteau pour l'achever. Si j'aime l'autre, je ne vois pas comment je convoiterais sa femme ou son mari. Si j'aime l'autre, eh bien, je ne dirai pas de méchanceté. Je chercherai son bonheur. Voilà le vrai amour. L'apôtre Paul, qui dans son parcours ici-bas a eu la grâce, comme vous et moi, de rencontrer la manifestation parfaite de l'amour de Dieu, à savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul, après son expérience sur le chemin de Damas, avait compris la profondeur de cet amour. Avait compris, mes amis, que cet amour était au-delà de l'impensable, au-delà du raisonnable, au-delà du compréhensible. Il avait fini par comprendre, il fallait vraiment une révélation de la part de Dieu lui-même pour comprendre et expérimenter cet amour. Qu'a-t-il fait? Oui. Ayant réalisé l'importance pour les chrétiens d'Éphèse, et au-delà des chrétiens d'Éphèse, pour tous les chrétiens, de connaître l'amour du Christ, de marcher dans cet amour, eh bien l'apôtre Paul n'a pas hésité à se lancer dans une intercession puissante en faveur des chrétiens d'Éphèse, et au-delà d'Éphèse, en faveur de tous les chrétiens. Écoutez ce qu'il écrit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 3, 14 à 19. Nous allons le lire calmement. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son origine, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il continue, hein. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Oh, alléluia. C'est ça l'amour parfait. Lorsque nous arrivons à expérimenter la plénitude de Dieu, mais comment l'expérimenter si nous ne connaissons pas l'amour du Christ, si nous ne sommes pas remplis de cet amour? Un amour en quatre dimensions. Un amour, mes amis, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Comme je l'ai dit, au-delà de la raison humaine, au-delà du compréhensible. Un amour dont l'homme naturel, l'homme irrégénéré, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui n'est jamais de nouveau, né de nouveau, eh bien est incapable de saisir. Et puis ensuite, de donner cet amour à Dieu et puis aux autres. Il faut passer par la nouvelle naissance.
C'est pourquoi il intercède que les Éphésiens soient fortifiés dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Alléluia. Il prie pour que Christ habite en eux par la foi. Car il n'y a pas d'autre solution de vivre et de marcher dans cet amour en dehors de Jésus. Donc notre amour pour notre Dieu, notre amour pour le Seigneur, notre amour pour les autres dépendra de la place que Christ occupe dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Si nous sommes remplis d'égoïsme, nous sommes remplis de toutes sortes d'impuretés, de scories de tout genre. Si nous sommes orgueilleux, eh bien, il sera impossible de pouvoir aimer véritablement Dieu. Vous comprenez pourquoi la mort à soi-même reste, mes amis, la possibilité pour qui que ce soit d'aimer Dieu du même amour dont il nous aime et d'aimer les autres comme Christ nous aime. Mourir à soi-même. Eh oui. Le moi, mes amis, est très subtil. Le moi est très sournois. Le moi est égoïste. Même quand il pose des gestes nobles, apparemment. Même quand il pose des gestes fraternels, louables, etc. Mais au plus profond de soi-même, il y a toujours l'intérêt personnel. Il y a toujours ce désir d'être vu, d'être placé sur un piédestal à partir de ce qu'on a fait. Voyez. C'est ainsi que l'homme aime claironner. À chaque fois qu'il fait un geste louable, il faut que tout le monde le sache. Voilà. Là, il se met à crier « Urbi et Torbi » à la ville et au monde. Voilà, j'ai fait ceci. Oh, tout ça, c'est moi. Hein? Voilà. On a investi dans un orphelinat. Eh bien, il faut que tout le monde le sache. Voyez-vous qu'on a donné tous ses biens pour cet orphelinat. Garde ça pour toi. Si tu le proclames, tu le claironnes partout, c'est que tu l'as fait pour toi. Tu l'as pas fait pour Dieu. Ce qu'on fait pour Dieu doit être fait sans que telle ou telle autre personne ne le sache. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce que ta main gauche donne, il faut pas que la main droite le sache. C'est pourquoi évitez un peu de vous retrouver dans des réunions où on vous demande de passer devant par rapport à un appel. Qui a 1 000 $? Qui a 1 000 $? Et souvent on fait appel à des gens, hein. Je ne sais pas s'il y a des écoles de mobilisation à Kinshasa. À l'époque du Impère, il y avait le mot pape. Qui se souvient de ça? C'était tout un ministère, propagande, animation politique et mobilisation, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a encore des écoles comme ça. Il y a des gens, vous apprenez, partout où on doit faire des appels de fonds, c'est à eux qu'on donne la parole. Et quand ils prennent, oh là là, c'est des vrais bonimenteurs, hein. C'est-à-dire les gens qui manipulent les autres, au point où si vous ne faites pas très attention, vous êtes là subjugués par tout ce qui sort de leur bouche, eh bien à la fin, si vous ne faites pas très attention, non seulement ce sont vos billets verts qui vont rester, mais même votre portefeuille. Pourquoi demander aux gens qui a 1 000 $, qui a 500, qui a 100, allez venez. Le moins aime ça. Le moins aime ça. Qui a 500? On regarde en gauche à droite. Personne. Et là, il y a une voix qui dit, lève-toi, va donner. Et puis on s'élève. Voilà. Et là, on avance, on fait semblant d'incliner sa tête. Une fausse humilité. Car l'humilité aurait voulu que tu le fasses sans que personne le sache. C'est de l'hypocrisie. Voyez-vous, je rends grâce à Dieu un frère qui est venu me voir tout à l'heure. Nous étions seuls au bureau. Il me dit, pasteur, je viens déposer mon enveloppe pour la construction. Il dit, je ne veux pas qu'on sache, c'est anonyme. C'est d'ailleurs moi qui ai insisté. Nous étions à deux, hein. J'ai insisté et dit, non. Je vais demander qu'on fasse un papier, mais anonyme. Voilà. J'ai appelé nos deux secrétaires. Il dit, voilà la grosse enveloppe. Un billet vert, hein. Je dis, vous allez mettre ça, mais vous me faites un bon anonyme. Voilà.
J'ai beaucoup loué sa démarche. Voilà. Il ne s'est pas levé à un moment avec sa grosse enveloppe. Voilà. Et comme nos paniers, vous voyez, il y a un tissu tout autour. Tu tires un peu parce que c'est... Non, il est venu dans l'anonymat total. Et Dieu seul le connaît, il est là. Quand il est même assis à côté de toi, devant toi, mais il n'est pas écrit là-dessus qu'il a remis tel. Autant, c'est lui et Dieu.
Alléluia.
Un amour puissant. Et par rapport à cet amour, comme je vous l'ai dit la fois dernière, il y a deux choses importantes que nous devons comprendre. Deux vérités qui caractérisent cet amour. Deux vérités qui particularisent, qui singularisent cet amour. Deux réalités qui sont indissociables de cet amour. Et ces deux éléments sont des caractéristiques essentielles de l'amour dans lequel nous sommes appelés à marcher. Cet amour dans lequel Christ lui-même a marché, que ça soit vis-à-vis de son Père. Il a demeuré dans l'amour de son Père lors de son incarnation, jusqu'au bout. Même à la croix, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner avant, en Gethsémané, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté qui se fasse, mais ta volonté. C'est ça l'amour, l'obéissance à la parole. Dieu l'avait envoyé avec une mission. Il a accompli cette mission en demeurant dans l'amour du Père. Eh bien, cet amour aussi envers nous, cet amour-là, a deux caractéristiques essentielles. Deux notions associées à l'amour agapé, comme nous l'avons vu, à cet amour qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Nous l'avons lu dans Éphésiens 5, verset 2, il nous est dit, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Il y a là, mes amis, une double caractéristique de l'amour dans lequel nous sommes appelés à marcher. Double caractéristique concernant cet amour dans lequel Christ lui-même a marché. Cet amour qu'il a manifesté, que ce soit envers son Père, que ce soit envers l'humanité. Encore une fois, Jésus reste notre modèle en tout. Alléluia. C'est le modèle suprême. Nous devons prier comme lui a prié. Alléluia. Nous devons aimer notre Père comme lui l'a aimé. Nous devons aimer les autres comme lui nous aime. Il reste en tout et pour tout, eh bien, le plus grand besoin dans lequel vous et moi nous nous trouvons. Rappelez-vous, durant les trois soirées concernant notre séminaire, nous avons vu qu'il est le chemin du salut, n'est-ce pas? Le chemin du salut, mais aussi le chemin qui conduit à l'accomplissement de la volonté du Père. Oh, alléluia, dont Jésus est tout. Alors, quelles sont ces caractéristiques essentielles? Deux. Il y a d'abord l'offrande. Donc, il s'est offert, il s'est livré en offrande. Oh, alléluia. Et puis ensuite, en sacrifice. Et tout cela a été un parfum de bonne odeur, voyez-vous, non seulement pour son Père, mais également pour chacun de nous, car c'est pour nous qu'il s'est livré à la croix. L'offrande et le sacrifice. Voilà, mes amis, les deux caractères ou caractéristiques essentielles de cet amour. Il y a cette dimension d'offrande. Et puis, il y a cette dimension sacrificielle ou de sacrifice. Donc, ça veut dire qu'à ce stade, nous voyons que c'est un amour qui s'exprime. Oh, alléluia.
quand on offre quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a là un geste qui est posé. C'est donc un amour qui se manifeste, un amour qui se vit. Et quand cet amour se manifeste, on le voit. Oh, alléluia. Et donc, c'est pas quelque chose qui serait simplement de l'ordre du potentiel. Mais c'est quelque chose qui est pratique. Nous le verrons dans la suite. L'offrande et le sacrifice. Alors, retournons un tout petit peu pour essayer de définir. À partir de l'Ancien Testament, n'allons pas lire tout le livre du Lévitique. C'est un des livres le plus difficile à lire, hein, pour ceux qui sont appelés à être des bibliophages. Vous avez compris? Bibliophages, ceux qui mangent la Bible. Quand on arrive dans Lévitique, je vous assure, c'est un morceau très dur. Il faut avoir des dents spirituelles dures. L'offrande et les sacrifices. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, lorsque nous analysons cette notion d'offrande et de sacrifice, nous voyons qu'il y a en effet une différence. Une différence entre cette notion d'offrande ou d'oblation et celle du sacrifice. Le terme sacrifice désigne plus particulièrement l'immolation d'animaux. Dans la loi de Moïse, eh bien, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il fallait, pour diverses raisons, amener un animal, un taureau, un bouc, un bélier, un agneau, une brebis, tout ce que vous voulez, mais enfin, un animal sans défaut, pour l'immoler. Voyez-vous? Et donc, ce geste-là s'appelait un sacrifice, et quand nous parlons donc de sacrifice, nous parlons de l'immolation. Il y a donc une vie qui est donnée. Oh, alléluia. Car en tuant l'animal, son sang coulait. Une vie était donnée. Voyez-vous? C'est ça le sacrifice. Donc l'immolation d'animaux. Ça, c'est le premier sens, de manière particulière. Tandis que le mot offrande comporte davantage l'idée d'un don fait à l'Éternel, et de ce fait s'applique spécialement aux oblations, c'est-à-dire aux offrandes non sanglantes, c'est-à-dire les produits agricoles. Voilà, l'offrande. Comme il est dit dans Lévitique chapitre 2 verset 1er, Lévitique, si quelqu'un présente en oblation ou en offrande, c'est pour éviter de répéter l'offrande. Enfin, ça veut dire la même chose. Si quelqu'un présente en oblation à l'Éternel une offrande, eh bien, son oblation sera de fleurs de farine. Il versera l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Et nous trouvons, justement, dans le livre du Lévitique, plusieurs types d'offrandes à partir de produits agricoles. Par exemple, l'offrande de farine, c'est ce que nous avons lu. Donc, l'Israélite était censé apporter son offrande de farine et sur laquelle il versait du vin, c'est ce qu'on appelle la libation de vin qu'on versait sur l'offrande de farine. Les prémices de récolte, si vous lisez, vous allez voir que quand l'Israélite récoltait, il prenait les prémices, les premiers produits de la récolte, de la moisson, et il allait offrir ça à Dieu. C'était ça, son offrande, son oblation. Et il y avait aussi les prémices des animaux, par exemple. Et puis les dîmes des récoltes. Et de toutes sortes d'animaux que l'Israélite amenait à Dieu. Donc, quand il est question, bref, d'offrande, il est donc question de produits de la culture du sol. Voilà, le blé, la farine, enfin, tout ce que l'Israélite semait. Et ces offrandes étaient des offrandes non sanglantes, voyez-vous, contrairement donc à l'immolation d'animaux. Quant au sacrifice, Eh bien, pour le sacrifice, comme je l'ai souligné, il est question de l'immolation d'animaux. On pouvait immoler des taureaux, des bœufs, des vaches, des béliers, des brebis, des boucs, des chèvres, d'agneaux, tout ce que vous voulez, vous pouvez lire. Ça, c'est ça le sacrifice sanglant. Vous voyez? Alors, très rapidement, quelques exemples de sacrifices. Il y a par exemple l'Holocauste. On prenait l'animal, on le tuait. Évidemment, il y avait l'autel, ce qu'on appelait l'autel du sacrifice. Et on prenait le sang, on versait tout autour de l'autel, quand on entrait dans le tabernacle avant, et puis plus tard, quand on entrait dans le temple, là, dans le parvis, et donc vous aviez l'autel du sacrifice, on versait le sang tout autour de l'autel, et puis on mettait l'animal sur l'autel, et on l'immolait entièrement, on le brûlait entièrement. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot « holocauste », qui veut dire « brûler entièrement ». Donc c'était le sacrifice qui revenait à Dieu. Tandis que pour d'autres sacrifices, par exemple le sacrifice d'expiation ou des sacrifices de culpabilité, eh ben, selon le type de sacrifice, une partie de l'animal sacrifié revenait au sacrificateur, une partie revenait à comment ? Au donateur, à celui qui est venu offrir, et quelquefois, il mangeait ça pas loin, donc, du tabernacle, ou pas loin du temple. Voyez. Et donc, ou alors les sacrifices d'action de grâce. On a été béni, et tout ça, et ben, on amène une brebis, on amène une chèvre, ou une agnelle, et on l'offre. Donc, l'idée sous-jacente ici, c'est quoi? C'est qu'on ne pouvait pas se présenter main libre, main vide, devant Dieu. Il fallait apporter quelque chose. Quand on s'approchait de Dieu, eh bien, soit c'était pour le remercier, pour ceci ou pour cela, soit parce que on se sentait indigne, parce qu'on avait péché, et on avait donc besoin de recevoir son pardon. Pardon qui passait par l'immolation, par le sacrifice d'un animal. Tout l'Ancien Testament parle, mes amis, de l'importance des sacrifices et des offrandes dans le culte des Israélites par rapport à leur Dieu. Il y en a tellement, donc le but ici c'est simplement vous permettre de comprendre. Et par rapport aux sacrifices et par rapport aux offrandes, eh bien, Un même verbe les accompagne. Un même verbe pour exprimer ce geste. C'est le verbe offrir. Voilà. Pour le sacrifice, j'offre, n'est-ce pas? Pour l'oblation ou l'offrande, j'offre. Donc ce verbe-là, offrir, fait partie du vocabulaire sacrificiel et s'applique à la présentation soit d'un sacrifice sanglant à Dieu, soit d'une oblation et donc de produits agricoles. Alors, offrir, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en hébreu, dans l'Ancien Testament, en hébreu, ce mot se dit karab. Karab. Et carabe, dans le mot carabe, eh bien, il y a deux verbes qui se suivent. Offrir, dans le contexte de l'Ancien Testament, veut dire s'approcher et faire approcher. Alléluia. S'approcher et puis ensuite faire approcher. Nous voyons donc que lorsque quelqu'un voulait offrir quelque chose, son sacrifice, son oblation, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord s'approcher, oh alléluia, s'approcher de l'autel, s'approcher de Dieu, et puis ensuite lui faire approcher son offrande ou son sacrifice. Il n'était pas du tout question d'être ici, tu prends le sacrifice, tu ne jettes pas. Sois. Tech. Non, pas du tout.
Donc ces deux mouvements sont importants. L'Israélite devait d'abord s'approcher de Dieu, premièrement. Et ce seulement après, il pouvait faire approcher son offrande. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. S'approcher d'abord soi-même de Dieu avant de lui faire approcher son offrande. C'est ce que le Christ a fait. Il s'est livré lui-même à Dieu. Il s'est approché de son Père. Et puis ensuite, il a présenté son offrande, alléluia. Il a présenté son sacrifice. Il s'est offert lui-même à son Père, voyez-vous. Et en s'offrant à son Père, en accomplissant la mission de son Père, eh bien, il s'est approché de nous pour pouvoir nous aimer. Sa vie comme offrande et comme sacrifice pour l'humanité. Et l'autel sur lequel il a déposé, où il a mis sa vie, eh bien, c'est la croix. Vous voyez pourquoi la croix est au cœur de la nouvelle alliance. Sans la croix, pas de réconciliation. Sans la croix, pas de pardon. Sans la croix, pas de nouvelle vie. Sans la croix, impossible d'expérimenter pleinement l'amour. Cet amour dans lequel Christ a vécu. Alléluia. Mes amis, nous aussi, nous ne pouvons pas marcher dans l'amour si nous n'apprenons pas d'abord à nous approcher de Dieu avant de lui faire approcher notre cœur. Oh, alléluia. Nous ne pouvons pas aimer l'autre, aimer le prochain, si nous ne l'approchons pas avec notre cœur avant de lui ouvrir notre main et lui donner ce dont il a besoin. Donc, il y a un mouvement en amont. Ce mouvement en amont consiste à s'approcher de Dieu. Et puis ensuite, il y a l'aval. Et là, la main s'étend. La main s'ouvre et offre. Alléluia. Je m'approche de Dieu. Alors je peux lui offrir ma louange, mon adoration. Je m'approche de Dieu. Alors je peux lui donner ma dîme. Je peux lui donner ma contribution. Or, s'approcher de Dieu implique que nous soyons en relation avec lui. Alléluia. S'approcher de Dieu veut dire que nous sommes dans un état où nos cœurs peuvent vraiment s'approcher de lui. C'est là que nous voyons toute la dimension de la sanctification. Donc, cet amour ne peut être vécu qu'à partir d'un cœur qui est complètement habité par le Christ. Cet amour aux quatre dimensions. Ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher dans cet amour si nous n'apprenons pas, mes amis, à nous approcher pour ensuite faire approcher notre louange. Ça veut dire que quelqu'un peut chanter le nom du Seigneur sans que cela arrive devant le trône de la grâce. Il n'y a que ce qui vient de notre cœur qui peut toucher le cœur de notre Père. Et un cœur qui arrive à toucher le cœur de notre Père, c'est un cœur qui vit dans la sanctification. C'est un cœur dans lequel Christ habite. C'est un cœur complètement régénéré, que le Saint-Esprit régénère au fur et à mesure où la personne vit selon la parole de Dieu, au fur et à mesure que la personne demeure dans les directives générales, alléluia, comme nous l'avons vu, dans la mesure où nous marchons selon sa parole pour notre vie, dans la mesure où nous vivons selon telle ou telle autre direction qu'il nous donne, alors nous nous approchons de Dieu. Et nous approchant de lui, nous pouvons lui faire approcher notre don. C'est alors que notre offrande aura un sens. C'est alors que ça sera l'expression de notre amour. C'est alors que nous pourrions dire, Seigneur, je t'aime, prends mon enveloppe pour la construction. Mais je l'approche d'abord. Car si ce n'est que la main qui donne, ça sert à quoi? Dites-moi, nous enfants de Dieu. Oui, il est vrai que Dieu peut toucher même les non-chrétiens, et les amener à contribuer à son œuvre. Hein? On l'a vu, hein? Lors du retour de la captivité, on en a parlé le vendredi où Papa Bassoumi a prêché. Tout le monde a contribué à la construction du temple, et puis à la construction de la ville de Jérusalem. Mais avant de partir, Dieu avait touché des rois païens. Dieu avait touché des gens qui n'avaient rien à voir avec le culte de Yahvé, d'Adonai, et ces rois-là ont pu donner leur contribution. Dieu est capable. Ici, nous nous adressons à ceux qui connaissent Dieu, qui sont appelés à marcher dans l'amour comme Jésus. Oh, alléluia! Ceux-là doivent apprendre que dans cet amour, les deux mouvements sont importants. C'est d'abord au niveau du cœur. Alléluia! Et avec ça, nous comprendrons pourquoi l'apôtre Paul a dit, « Quand bien même je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand bien même je me livrerai pour les autres, si je le fais sans amour, eh bien cela ne sert à rien. » Eh oui, il y a moyen de poser des actes sans amour. Et nous le verrons. Il y a moyen de se tenir devant Dieu sans l'aimer. Au loin simplement, Seigneur, c'est si, car l'amour de Dieu consiste à demeurer dans sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons son nom. Offrir veut dire s'approcher et puis ensuite faire approcher. On a toujours quelque chose qu'on doit apporter au Seigneur. Notre louange, notre adoration, notre temps, lui offrir nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos études, notre travail, nos activités. Voyez, il faut d'abord que nous nous approchions de lui. Et cela implique donc au préalable que nous soyons en relation avec lui et que nous demeurions dans cette relation. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cet amour qui nous vient de toi, cet amour qui ne peut pas être le produit de nos propres efforts, mais que ton esprit génère en nous, dans la mesure où nous demeurons en toi, dans la mesure où nous restons attachés à toi. Ô Dieu, nous voulons t'offrir. Nous voulons, Dieu, t'exprimer cet amour par des gestes concrets. Mais derrière ces gestes, il doit y avoir un cœur qui s'approche d'abord de toi, avant de te faire approcher notre don, notre offrande, avant de poser un geste, quel qu'il soit. Merci pour tout. Merci, Seigneur, de nous aider dans ce domaine. Nous voulons maintenant t'offrir quelque chose. Et ma prière est que tu nous donnes de le faire avec notre cœur. Que nous le fassions par amour pour toi. Alors accueille volontiers, accueille favorablement, Seigneur, nos dîmes, notre contribution pour le temple, notre offrande, notre libéralité, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.